Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ça ne vous aura pas échappé, eh bien, rencontrera, Liz Ben Ki-moon vous le disait, le président américain Donald Trump. Ce sera le 29 décembre prochain dans sa propriété, la propriété de Donald Trump, bien sûr, à Mar-a-Lago, en Floride. Une rencontre qui s'annonce cruciale pour l'avenir de la région du Moyen-Orient et le futur du plan de paix dans la bande de Gaza. On en parle ce matin avec Yigal Palmor, c'est l'ancien porte-parole des bureaux de la diplomatie israélienne à Jérusalem et par ailleurs expert en relations internationales. Il était au micro hier soir de Jonathan Serrero.
Dans son intervention à la Knesset, le Premier ministre Netanyahou a avoué des désaccords entre Israël et les États-Unis sur la vision de la région, notamment. On le sait, Washington souhaite débuter au plus vite les négociations sur la phase 2 du plan Trump pour le maintien de la paix dans la bande de Gaza. Est-ce que le Premier ministre israélien saura résister à cette pression américaine, sachant que le président Trump s'est quasiment porté garant pour faire réussir son plan de paix et sachant aussi que le Hamas n'est pas prêt à déposer les armes? Bref, est-ce que le Premier ministre israélien est capable de savoir dire non à Donald Trump?
Je crois que au bout de la négociation, Netanyahou ne pourra pas dire non à Trump parce que tout le sort des accords régionaux dépend du bon vouloir de Donald Trump. L'accord de cessez-le-feu avec le Liban, les accords d'Abraham, bien sûr, et possiblement d'autres accords dans ce sens, puisque Netanyahou n'arrête pas d'insinuer qu'il y a d'autres accords qui pourraient être signés dans ce cadre-là. Et bien entendu, le cessez-le-feu à Gaza avec le fameux plan Trump qui a été ratifié, enfin approuvé par la Knesset par un vote consensuel il n'y a pas longtemps. Donc Netanyahou ne pourra pas dire non sur les points principaux, sur les points fondateurs du plan Trump. Il pourrait évidemment, sur certaines nuances, tenter de dire non, de changer la couleur. Mais globalement, si Trump veut faire avancer le Schmilblick, si j'ose dire, à Gaza, en faisant entrer en jeu la phase 2, c'est-à-dire la constitution du contingent international, la force de stabilisation, n'est-ce pas, la construction de la cité modèle, comme on dit, à Rafah, avec des matériaux de construction en provenance de l'Égypte, l'intervention des soldats américains qui sont basés à Kiryat Gat en Israël, qui ont construit une base extraterritoriale à Kiryat Gat. Avec tout ça, si Trump veut avancer, s'il veut faire un pas, voire deux pas, voire trois pas en avant, Netanyahou ne pourra pas lui dire non. Après, il pourra présenter les choses à la manière qui lui convient, bien sûr, et ça ne sera pas forcément contre les intérêts d'Israël. Hein, attention, ce n'est pas contre Israël, mais ça sera l'initiative de Trump, et Netanyahou devra évidemment s'y plier.
Alors, le Premier ministre Netanyahou aime à se targuer aussi de la bonne coordination entre Israël et les États-Unis, mais sur le dossier Gazaoui, on a du mal tout de même à l'apercevoir de manière concrète, puisque le président Trump n'a pas hésité ces derniers jours, ces dernières semaines, par exemple, à critiquer les éliminations par Tsahal de terroristes dans la bande de Gaza, par exemple. Est-ce que ce flou autour du futur de ce plan Trump peut profiter à d'autres acteurs de la région, tels que la Turquie ou le Qatar, qui ambitionnent vraiment, eux, de mettre la main sur la bande de Gaza?
Oui, alors, vous avez mis le doigt sur la plaie, le flou, le manque de plan d'après-guerre pour le gouvernement israélien. Il n'y a pas eu de plan, il n'y a jamais eu de plan. Le gouvernement de Netanyahou, à aucun moment, n'a présenté sa vision de l'après-guerre. Et donc, comme aucun plan israélien n'a été soumis à discussion ou n'a été appliqué de manière unilatérale, il s'est créé un vide, un flou. Et dans ce vide, la nature a horreur du vide, bien sûr, et dans ce vide s'engouffrent les acteurs régionaux qui souhaitent laisser leur marque, qui souhaitent faire avancer leur propre intérêt. À la tête de cela, la Turquie et le Qatar. Malheureusement, on n'a pas pu donner, je dirais, l'avantage à des pays comme l'Égypte ou les Émirats, voire l'Arabie saoudite, avec lesquels nous pourrions nous entendre mieux. Et les États-Unis aussi, je crois. Mais bon, ça, je laisse cette vision aux Américains. Mais Israël n'a pas souhaité mettre en avant la collaboration avec ces pays, ni avec l'autorité palestinienne. Et en disant non, Israël n'a pas dit oui. Il n'a dit oui à personne d'autre. Et comme je viens de le dire, le vide qui s'est créé est vite rempli par ceux qui sont les plus ambitieux. Et dans ce cas, c'est la Turquie d'Erdogan et le Qatar.
Alors hier, le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a indiqué qu'en l'absence de volontaires pour assurer la sécurité dans la bande de Gaza, ce serait Tsahal qui assurerait tout seul peut-être la sécurité du territoire gazaoui. Est-ce que les États-Unis parviendront à convaincre Israël de laisser par exemple des gendarmes turcs ou égyptiens faire la police sur le territoire gazaoui ou peut-on s'attendre à un scénario où eh bien c'est Tsahal qui décidera seul de cette sécurité dans la bande de Gaza? Et vous avez parlé du flou aussi, de l'absence de plan israélien concernant le futur de la bande de Gaza. Ça fait beaucoup d'inconnus tout de même, Igal.
Oui, ça fait énormément d'inconnus. Je crois que si on s'y était préparé, on aurait pu dire, voilà, c'est pour l'après-guerre, c'est pour Tsahal, et donc Tsahal se serait préparé. Mais personne n'a donné une directive à Tsahal de se préparer à assurer la sécurité à Gaza après le cessez-le-feu. Donc Tsahal est un peu pris à l'improviste et il essaye d'improviser. Maintenant, est-ce que Trump a une idée, lui? Est-ce que lui a un plan qu'il pourrait imposer sur le terrain, imposer à Netanyahou? C'est fort possible. Il se peut que cette fois-ci, à Mar-a-Lago, le président Trump présente à Netanyahou un plan qui associe les Égyptiens, les Égyptiens qui sont tout près, n'est-ce pas? Qui associe peut-être aussi des éléments de l'autorité palestinienne, qui associe quand même, peut-être pas des gendarmes turcs, mais des éléments turcs, puisqu'on connaît la sympathie de Trump pour son homologue turc. On peut se demander à quoi cela tient, mais cela est un fait, malheureusement. Donc, il y aurait peut-être une contribution turque, il y aurait, je l'espère, une grande influence égyptienne. Je crois que les conseillers de Trump, eux, ont une idée très claire en tête de ce qu'ils veulent voir sur le terrain. C'est ce qui va être présenté à Netanyahou. Et je ne suis pas du tout sûr qu'il a un contre-plan à présenter. Donc, ça sera, je crois, en grande partie, le plan Trump qui sera non seulement présenté, mis à l'avant, mais qu'on commencera à appliquer sur le terrain, avec toutes tout le flou et toutes les incertitudes que l'on connaît, mais prudemment, pas après pas, ça sera ce plan-là qui sera mis à exécution.
Dernière question, Igal Palmore. Une information faisait état hier de la volonté du président Trump justement d'organiser un sommet entre le Premier ministre Netanyahou et le président Abdel Fattah al-Sissi pour parler du futur de la bande de Gaza, entre autres, et notamment aussi de l'accord important, de l'accord gazier entre les deux pays. Quelles sont les craintes israéliennes concernant son voisin égyptien? C'est lapsus révélateur. Pourquoi
Là-dessus.
Israël Pourquoi Israël se montre aussi méfiant envers le Caire?
Alors, je dois dire que la réticence principale des acteurs israéliens dans le domaine de l'énergie ne consiste pas à soupçonner l'Égypte d'un quelconque complot ou d'une quelconque volonté néfaste à l'encontre d'Israël. Il ne s'agit pas du tout de cela. Simplement, quand on lit les termes de ce contrat, on se rend compte que à ce rythme-là, d'ici 20 ans, tous les puits gaziers d'Israël seraient vides. D'ici 20 ans, Israël n'aurait plus de ressources gazières. Et l'indépendance gazière d'Israël est perçue comme un point principal de l'indépendance énergétique du pays. Et c'est à cela que tient la réticence de beaucoup d'acteurs israéliens qui font pression sur le gouvernement justement de trouver un autre moyen d'accommoder l'Égypte, mais pas de vider entièrement les puits gaziers israéliens.
Igal Palmore, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.